L'adolescence, c'est l'âge de toutes les transformations, de toutes les découvertes, de toutes les colères. Les parents débordés parlent d'âge ingrat. Les grands-parents envieux évoquent la meilleure période de leur vie. C'est sans doute en effet l'un des passages les plus enthousiasmants dans une existence, sauf qu'on ne s'en aperçoit bien souvent qu'après. Pour ranger les innombrables événements de ces quelques années, on peut se procurer un grand sac, comme un fourre-tout, que l'on appelle « sac à dos ». Pour être au top du top de leur quotidien, ces futurs adultes disposent de leur propre radio, Ado FM. Et puis on peut vivre aussi les aventures de ces jeunes par le biais d'œuvres littéraires, cinématographiques ou de BD, signées de personnes qui ont peut-être du mal à vieillir, les éternels ados. Mon invité est-il de cela? En tout cas, cette charnière de la vie l'interpelle depuis toujours. Il en a fait le sel de sa création. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Dessinateur de BD, cinéaste, auteur, scénariste, êtes-vous resté un éternel ado?
Non. quelque part peut-être, disons que je suis la somme de l'enfance, de l'adolescence et je suis adulte depuis peu de temps. Donc je suis toujours très intéressé, ce sont des souvenirs qui sont toujours très vifs.
Tellement vifs que vous en faites l'essentiel de votre création, enfin une grande part quand même.
J'aime le regard de la jeunesse et de l'enfance comme... comme prisme un peu candide sur l'existence. Voilà.
Ça, et à nous, auditeurs, spectateurs de vos films, lecteurs de vos BD, ça nous apporte quoi? Ça nous ramène à notre propre enfance? Qu'est-ce que vous cherchez en fait pour nous?
Ah bah pour vous, je ne sais pas, c'est à vous de me dire ce que vous trouvez dans mes livres et dans mes films, mais toujours est-il que moi j'aime, notamment dans mon dernier album, L'Arabe du Futur, où j'explore les souvenirs de la petite enfance. J'aime bien essayer de montrer le monde de la manière la plus neutre possible.
Et justement, c'est pour cela que je vous ai invité aujourd'hui pour cet album, L'Arabe du Futur, dont on reparlera tout à l'heure. En 3 tomes, c'est le premier qui vient de paraître. Mais avant d'aller plus loin, un portrait de votre travail signé de notre spécialiste bande dessinée, Jean-Christophe Augier, à qui j'ai demandé de m'accompagner pour cette émission.
Et à ceux qui n'auraient jamais eu entre les mains une bande dessinée de Riyad Satouf, on peut dire que le jeune homme assume un dessin très BD, tout simple, assez rond, qui ne joue pas à l'artiste. Bref, le genre de récit en images qui, au premier coup d'œil, confortera dans leur jugement ceux qui trouvent que la BD, c'est bêta et fait pour les enfants, justement. À y regarder de plus près, attention, ça touffe à l'œil, qu'il raconte les histoires de Pascal Brutal, humour viril et gourmet en argent, qui lui a valu tout de même le prix du meilleur album à Angoulême, qu'il raconte la vie secrète des jeunes, catalogue infini de scènes de rue ou de métro affligeantes, voire déprimantes, qu'il se lance enfin dans le récit de la vie de sa famille, avec L'Arabe du Futur. Riyad Satouf fonctionne comme le Montesquieu des lettres persanes. Il regarde le monde d'un œil étranger, presque naïf, totalement innocent. Comme si vous alliez toujours quelque part pour la première fois, Riyad Satouf. C'est comme ça que vous voyez le monde et les choses?
Vous voulez dire...
Comme un étranger, partout où vous passez?
Peut-être, oui. Voilà, c'est peut-être une bonne définition. C'est-à-dire que j'aime bien regarder les événements de la société, les différentes sociétés, en étant exclus de cette société, comme ça, ça me permet de la décrire.
Ça va très loin, jusqu'à vous-même. Là, en entrant ici, dans la maison de la radio, vous avez ce sentiment-là encore?
D'être un étranger? Peut-être pas en vous croisant, Jean-Christophe, ça fait longtemps que je vous vois. mais c'est vrai que j'aime beaucoup le sentiment d'être un peu un alien dans un environnement... inconnu.
Sur ce premier album, sur ce premier tome de l'album L'Arabe du Futur, c'est un roman graphique, on peut le dire comme ça, qui vient de sortir aux éditions Alaris. Et donc, vous l'avez dit, avant l'adolescence, on plonge dans votre petite enfance en Libye, à Tripoli, où votre père avait été nommé professeur. Vous gardez quel souvenir de cette période? Parce que vous n'y êtes pas resté longtemps, c'est vraiment les toutes premières années.
Tout à fait.
De 2 à 6, 7 ans?
Tout à fait, c'est ça. Je raconte dans le livre donc, cette première partie où nous sommes en Libye, à travers la vie quotidienne de ma famille et plus particulièrement de celle de mon père qui donc était professeur à l'université de Tripoli. Et moi j'étais très très jeune et j'en garde énormément de souvenirs qui sont surtout des souvenirs d'émotions, des souvenirs de sensations, pas forcément des souvenirs de dialogue parce que j'ai évidemment recomposé tous les dialogues pour rendre l'histoire un peu intelligible.
La rencontre entre vos parents s'est vraiment passée comme vous l'avez raconté?
Disons que voilà, c'est-à-dire que je n'étais pas présent.
C'est piquant quand même.
Voilà, mais je la raconte parce que je trouve ça toujours amusant de montrer les malentendus et les hasards qui génèrent ensuite des vies ou des histoires. Quoi.
C'est mes parents. C'est votre maman, elle est allée à la place de sa copine, en fait, au rendez-vous avec votre papa.
Voilà, je raconte cette histoire-là parce que voilà, souvent on pense qu'on a un destin et j'adore montrer que tout est une histoire de malentendu.
Père syrien, mère bretonne, on sourit, on peut même éclater de rire en lisant l'Arabe du futur, mais c'est grinçant. Ce que vous racontez peut être horrible. Vous avez le sentiment de raconter des choses horribles?
Disons que j'ai surtout quand j'écris une histoire, je me dis pas tiens, je vais raconter ce truc vraiment horrible. Ça fait partie d'une succession de choses et j'aime bien montrer dans mes histoires, enfin en essayant le plus possible de montrer une diversité d'émotions et de sentiments. Et surtout quand on est enfant, en fait, c'est la période où on fait l'expérience du monde extérieur et on est amené à l'interpréter. Et dans le livre, je raconte ça, c'est-à-dire des choses qui, pour le lecteur, peuvent passer pour horribles quand on est enfant et qu'on n'est pas forcément préparé ou éduqué à les juger comme telles, elles nous passent au-dessus de la tête et on les vit sans se rendre compte, sans les interpréter.
Oui, mais quand même, apparemment, en Syrie, l'antisémitisme fait partie de l'éducation de base, jusqu'aux petits soldats de plomb ou de plastique qui représentent de sales juifs.
De toute manière, ça, c'est vrai que je le raconte dans le livre, mais c'est quand même très célèbre. Enfin, ce n'est pas non plus un scoop. Alors après, évidemment, peut-être c'est pas une information très répandue, mais moi, j'ai toujours mes livres d'école avec lesquels j'ai appris l'arabe, dans lesquels il y a des poèmes invitant à la guerre contre Israël. Voilà, pour moi, il était important de raconter ça dans le livre, justement, pour bien montrer que c'est une éducation et que c'est un formatage de l'esprit et que c'est pas quelque chose d'inné chez les pauvres gens, ces pauvres gens.
Pour illustrer la période libanaise, donc, de ce premier volume, vous avez souhaité écouter Marcel Khalife, j'espère que je prononce bien, compositeur, chanteur, joueur de oud libanais. Les Palestiniens disent qu'il est palestinien. Vous nous présentez en un mot?
Oh, moi, je connais pas bien sa carrière, mais j'adore sa musique. Voilà.
Eh bien, écoutons-la ensemble. Mirror Moon. Mirror Moon de Marcel Khalife, Riyad Satouf en votre compagnie tout au long de cette demi-heure.
Bernard Thomasson.
Rencontre avec le dessinateur et réalisateur Riyad Satouf pour son dernier roman graphique, L'Arabe du futur. L'histoire va donc être publiée en 3 volumes aux éditions Alari. Alari édition, d'ailleurs, ça s'appelle. J'imagine que le prochain racontera plutôt la Syrie.
Donc le premier se concentre sur une partie libyenne et ensuite en Bretagne et ensuite en Syrie. C'est vrai que le second tome sera
plutôt breton,
en Syrie et aussi en Bretagne. Voilà,
Et alors la Syrie, le regard que vous portez sur la Syrie aujourd'hui, pourquoi la Syrie en est arrivée là?
Oh, si j'étais capable de répondre à cette question, je serais, je sais pas, c'est très difficile à expliquer. Moi, les commentaires politiques ou les avis politiques, je n'ai pas plus d'avis que le citoyen moyen qui suit les informations. Moi, je raconte dans mon livre une période dans l'Arabe du futur qui est celle du père de Bachar el-Assad actuel, qui est Hafez el-Assad, et je raconte la vie dans un village qui était situé à côté de Homs. Voilà, c'est ce que je connais, c'est
l'origine
ce que j'ai
de votre
connu.
Papa,
voilà, exactement.
Hein,
c'est un petit village, donc c'est ce que j'ai connu, c'est ce que je raconte, et je laisse le lecteur se faire son avis. Maintenant, évidemment, c'est abominable ce qui se passe en Syrie. D'ailleurs, l'abandon de ce pays par la communauté internationale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
Et l'actualité, justement, vous a rattrapé, c'est-à-dire vous étiez en train de réfléchir à peut-être à raconter ce récit de votre famille quand tout cela est arrivé, et vous avez éprouvé la nécessité d'aider votre famille qui se trouve là-bas.
Bah, disons que j'avais une partie de ma famille qui vivait encore à Homs. Et quand, au tout début des premiers soulèvements, il a commencé à y avoir des combats, etc. Et j'étais certain que le pays irait jusqu'au fond du gouffre, en fait. C'est-à-dire qu'aucun des deux camps n'abandonnera jamais. Et donc, je l'ai essayé de les faire venir en France. Et j'ai eu énormément de difficultés. Et du côté français, en fait, surtout. Et c'est vrai que je me suis dit, si j'arrive à les faire venir en France, donc j'y suis pas revenu, mais si j'arrive à les faire venir en France, je raconterai cette histoire depuis le début parce que ça me donnera une sorte de boucle. Voilà.
Pour revenir à votre père, qui était un éclairé pour l'époque, les années 80 que vous évoquez. À la fois, il était dans la perspective du panarabisme de Nasser, et puis il se serait bien vu chef d'État, c'est vrai ?
Oui, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est vraiment l'histoire de ce père qui venait d'un petit village très pauvre et qui, grâce à l'école, avait réussi à faire des études et à obtenir une bourse de la France, à devenir docteur à la Sorbonne, en fait, et qui n'avait eu aucune envie de travailler en Europe et qui voulait retourner dans le monde arabe pour éduquer les Arabes.
Et c'est là que vos vieux lecteurs ont tout compris, puisque le monde arabe uni, c'est vous qui l'avez fait, dans Pascal Brutal, et qu'il était présidé par Riyad Satouf. Vous avez vengé votre père, vous avez réussi à...
C'était un petit clin d'œil, oui, c'est vrai que dans le troisième tome de Pascal Brutal, donc Pascal Brutal est une série qui se passe dans un futur proche, un peu comique, et donc j'imagine un monde arabe où tout
avec
va mieux.
Avec une Bretagne indépendante, voilà. Hein, pour référence à la mer.
Voilà, j'imagine un monde arabe où tout va mieux, et qui est un monde arabe uni, dont je suis le président en toute modestie.
Avant d'accueillir votre invité, un peu de rock alternatif, dans votre univers musical, il y a le groupe américain Sonic Youth. C'est costaud, Sonic Youth. Vous écoutez ça souvent ?
Ah oui, j'écoutais ça quand j'étais adolescent. C'est un super groupe de rock, je vous le conseille.
Bon, et vous l'écoutez toujours quand même ?
Ah oui, bien sûr, oui.
Comme invité, vous m'avez demandé d'appeler votre éditeur Guillaume Allary. Pourquoi vous vouliez dialoguer avec lui ?
Parce que je trouvais ça intéressant, notamment dans le parcours d'un auteur comme le mien. Enfin voilà, j'ai commencé à faire des bandes dessinées il y a bientôt 12 ans. Et en fait, Guillaume était un de mes premiers éditeurs. Il travaillait dans un grand groupe. Une fois, je suis resté ami avec lui. Il avait édité une de mes premières BD qui s'appelait Retour au collège. Et les années ont passé, on est resté proches. Et il s'est lancé, il a monté sa propre maison d'édition.
Alors, on va en parler justement avec lui. Et vous êtes tellement proche qu'il est juste à côté de nous. Vous l'avez amené.
On ne se calme
pas. Bonjour Guillaume Allary.
Bonjour.
Jeune éditeur, c'est vrai, qui a travaillé chez les plus grands et qui vient de fonder sa propre maison. On est mieux quand on est son propre patron ?
On est mieux. Alors, il y a une évolution là dans l'édition depuis un moment maintenant, c'est qu'on publie beaucoup, beaucoup de livres. Et les très grandes maisons, Generalis, et Albin Michel, Robert Laffont, où j'ai travaillé, Grasset, voilà, toutes les grandes maisons, publient à peu près 300 livres par an. Et quand on est un éditeur et qu'on aime suivre ces auteurs et pouvoir leur apporter toute l'attention qu'ils méritent, c'est plus compliqué dans une très grosse structure qui publie 300 titres par an.
Même si on est directeur de collection, vous avez été directeur de Nil, par exemple.
Oui, c'était mon cas. Oui, mais on est tenu par une ligne d'une collection. Alors que là, ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir suivre les auteurs que j'ai choisi de suivre et avec une curiosité qui n'est pas de borne. Et je suis notamment attaché au fait que les auteurs ne soient pas dans une case, dans un genre. Voilà, Riyad est dans cet exemple-là. Vous vous disiez tout à l'heure, c'est un roman graphique, voilà, l'arabe du futur. On est à la fois du côté du roman, on est du côté de la BD. C'est en même temps un document. Et souvent, donc, quand vous avez une collection, vous devez faire que de la BD, que de la littérature, que de la non-fiction.
Mais vous me dites, dans les grandes maisons d'édition, il y a pléthore d'auteurs, on n'arrive pas à les suivre, etc. Mais vous savez bien qu'il faut beaucoup d'auteurs aujourd'hui pour faire vivre une maison d'édition, parce que c'est sur la masse que les maisons d'édition réussissent à vivre. Vous êtes un jeune éditeur, vous croyez qu'on... C'est difficile de se lancer dans ce métier à l'heure où tout le monde dit le livre est mort ?
Oui, c'est difficile. Mais je vois quand même l'évolution. En fait, moi, je suis à la fois jeune éditeur et pourtant, ça fait 20 ans en fait, que je fais ce métier.
Et vous êtes jeune patron, on va dire.
Voilà, jeune patron. Je pense que pour qu'une maison fonctionne, il faut qu'il y ait des auteurs qui aient le temps et les moyens de s'imposer. Voilà. Le projet là, de l'Arabe du futur, en fait, ça fait près de 9 ans qu'on le porte. Et donc oui, quand il y a beaucoup d'auteurs, on ne peut pas avoir cette attention
L'économie est importante, il faut beaucoup d'auteurs.
Oui, mais tout dépend. Tout dépend d'un livre. Les grandes maisons sont dépendantes d'un ou deux gros auteurs.
Et ça tombe bien parce que ce livre, c'est l'Arabe du futur au dernier classement Datalib.
Voilà. Les derniers chiffres.
Classement Datalib des meilleures ventes de livres. Eh bien, l'Arabe du futur, c'est soit une autre idée du bonheur, soit le capital au XXIe siècle, puisque c'est exactement à la deuxième place des ventes de livres entre Marc Lévy et Thomas Piketty.
Alors bravo. Et alors, mais c'est vrai qu'il faut un gros livre qui fait vivre les autres. Et vous avez avec vous, dans votre équipe, j'ose pas dire débauché, en tout cas embauché Nicole Lattès, directrice générale de chez Robert Laffont.
En fait, je travaillais quotidiennement avec Nicole depuis 5 ans, puisque j'étais en charge d'une des marques de Robert Laffont, qui est Nil. Et Nil, c'est une maison d'édition créée par Nicole Lattès, N-I-L, Nil. Donc en fait, notre quotidien était déjà de travailler ensemble. Moi, j'avais la responsabilité de cette marque, mais j'étais quotidiennement avec elle. Dans les grands groupes, ensuite, il y a des mouvements. C'est ce qui s'est passé là chez Robert Laffont, départ du PDG, voilà, des... j'avais déjà vécu ça chez Hachette Littérature, où il y a eu des mouvements. C'est à ce moment-là que je suis parti de Hachette Littérature pour arriver chez Nil. Et cette fois-ci, je me suis dit, enfin, Nicole m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit, je vais créer ma maison. Et elle m'a dit, je vous aide.
Super. Vous voulez dialoguer un peu avec lui, du coup? Parce que c'est votre invité, nous, on s'est accaparé. Mais...
Non, mais c'est vrai que quand vous disiez tout à l'heure que c'était un peu fou de monter une maison d'édition aujourd'hui, c'est ce qui m'a plu aussi. Je me suis dit. Et bon, Guillaume, c'est quelqu'un de très sensé, de très, très mesuré. Et je trouvais ça super courageux, à l'heure où tout semble s'effondrer, où les grands groupes se réorganisent, de lancer une petite maison comme ça. Et Guillaume, c'est mon voisin. Donc, même on habite côte à côte, donc on se voit très souvent. Et c'est vrai que quand on est un auteur, on a envie d'avoir ce regard-là, ce contact direct avec un.
C'est une rue de célébrité où vous habitez, parce qu'il y a Jalil Lespère juste à côté. Votre autre voisin.
C'est la rue, c'est Place de la République.
Il y a beaucoup de monde. Alors.
Et puis peut-être est-ce dû aussi au fait que Riyad Sattouf fait partie de cette génération d'auteurs. Il partage ou il a partagé, je ne sais plus si vous êtes encore en atelier avec Christophe Blain, oui. Mathieu Sapin, Johan Sfar, voilà que vous receviez il y a peu, Johan Sfar.
Et Jalil Lespère aussi, c'est comme ça que je sais qu'il est voisin.
C'est une génération qui a toujours fait le grand écart entre une bande dessinée presque un underground, mais presque, l'association, ces gens-là, et puis Dargo, les grandes maisons. Donc l'expérience éditoriale est quelque chose qui doit vous attirer aussi.
Oui, puis c'est vrai que voilà, une des forces de Guillaume, enfin moi ce qui me plaît beaucoup dans sa maison d'édition, c'est que ça n'est pas un éditeur de bande dessinée.
Très éclectique.
Voilà, il édite des romans, il a plein de choses. Donc c'est vrai que j'aime bien être un petit peu dans quelque chose d'un peu d'atypique comme ça.
Mais le début de l'histoire, c'était ça, parce qu'en fait, le retour au collège, c'était la première fois que Riyad sortait d'un univers BD. C'était même, en fait, les premières BD de Riyad étaient dans des collections.
Pour les auditeurs, rappelons que c'est un documentaire en bande dessinée fait dans un collège parisien. C'est tellement vrai qu'on
croit
que c'est faux.
Il y a passé 15 jours dans le collège.
Oui, mais c'est incroyable. Et ça a été d'ailleurs en sélection pour le prix France Info de la BD d'actualité de reportage à l'époque.
Et moi, quand j'avais rencontré Riyad à l'époque, il publiait simplement dans une collection pour enfants. Et je voyais ces auteurs de BD qui pouvaient être classés que en BD, censément pour les enfants, les adolescents, et en fait qu'il y avait une dimension romanesque et une puissance romanesque qui était au moins équivalente à celle de beaucoup d'auteurs de romans qui étaient publiés. Donc ça dit, faisons-le chez Hachette Littérature, et c'est comme ça que l'histoire avec Riyad a commencé.
Puisqu'on parle d'éclectisme, Riyad Sattouf, vous êtes aussi, restez avec nous Guillaume Allary, puisque vous êtes là, on va conclure l'émission avec vous, vous êtes aussi un homme d'image, réalisateur de deux films dont le premier a été un coup de maître, César du meilleur premier film, Les Beaux Gosses, en 2009, un extrait.
Tu m'as mis cette musique d'arabe là.
Putain, frappe, merde.
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux.
Tu te masturbais? Tu pensais à quoi?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais là.
Oh là là. Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein.
Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. J'en ai marre là, ok? Putain, tu m'emmerdes, ok? Putain! Moi, si ça continue, j'appelle en France maltraitée!
Voilà, oula, ça claque les portes. Bon, Les Beaux Gosses est un très grand succès. Le deuxième a été plutôt un bide en début d'année. Vous le regrettez, ce deuxième film?
De l'avoir fait? Ah, pas du tout.
Non, parce qu'il n'a pas marché du tout.
C'est pas grave. J'ai fait un petit peu. Le même genre d'entrée que Roman Polanski pour son dernier film.
Oui, mais disons quand même que Jackie au Royaume des Filles, c'est quand même un sacré écho à l'Arabe du futur. Je trouve que sur cette manière, ce regard décalé en permanence de « et si on changeait de point de vue ?» Voilà, c'est Riyad Sattouf, c'est « Et si on changeait de point de vue ?»
C'est simple de passer de la bulle à l'écran. Pendant qu'on écoutait l'extrait, Jean Crespo dit « On est déjà dans l'image, évidemment, avec la BD, mais je veux dire l'image à l'écran. » C'est simple de passer de l'image de la bulle à l'écran ?
Bah, écoutez, moi j'ai fait des études de cinéma, d'animation, et donc l'image... En mouvement est quelque chose qui m'intéresse et que je connais un petit peu. Donc, mais ce sont deux langages très différents. C'est-à-dire la grammaire de la bande dessinée et évidemment la grammaire du cinéma n'ont absolument rien à voir.
On va se quitter avec un dernier choix musical que vous avez voulu nous proposer. C'est Brassens, c'est une très belle chanson, Le Vent.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent et les gens probent, médisent du vent furibond, qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutrent et les gens probent, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice, comme de colle à tampon, si par hasard.
Si par hasard, pourquoi Brassens ? En un mot, parce qu'on est dans la plus
C'est mon dieu.
C'est votre dieu.
Voilà.
Exactement. C'est vrai que c'est magnifique. Merci en tout cas, Riyad Sattouf. Merci aussi à Guillaume Allary d'être passé par le studio de France Info. Merci à Jean-Christophe Auger. Je rappelle le roman graphique, L'Arabe du Futur, en 3 volumes aux éditions Allary. Le premier vient juste de sortir. Cette émission est à télécharger sur tous les sites de podcast. En s'abonnant à Rencontre avec, vous pouvez aussi la réécouter sur franceinfo.fr.